Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau point de mire qui me vaut le grand plaisir de recevoir le président Jean-Bertrand Drumen, président du tribunal de commerce de Nanterre, deuxième juridiction consulaire de France. Président, bonjour.
Bonjour monsieur.
Très heureux de vous recevoir donc sur notre antenne et de prendre sur votre temps que je sais extrêmement précieux. Vous êtes donc le président d'un tribunal de commerce qui est extrêmement connu et important en France. Vous avez fait, dans un premier temps, un parcours de dirigeant dans l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, de façon simultanée, pendant plus de 10 ans, vous avez exercé des fonctions de juge consulaire à Nanterre et dont vous êtes devenu le président depuis 2004. Vous êtes docteur en droit et un ancien participant du Centre européen d'éducation permanente de Fontainebleau. Vous venez d'entrer dans le collège de l'autorité de la concurrence, et félicitations, c'est tout récent, c'était en 2009. Et vous êtes par ailleurs, ce n'est pas rien, administrateur de l'École nationale de la magistrature, l'ENM. Donc nous recevons un grand professionnel et un homme d'expérience. Alors, quel est le rôle aujourd'hui de la juridiction consulaire des tribunaux de commerce ? La crise a-t-elle changé et modifié le contexte de réflexion, d'intervention des juges consulaires ? Aujourd'hui, les juridictions de commerce sont d'abord là pour la sauvegarde et le redressement des entreprises. Mais on va dire que dans le grand public, les tribunaux de commerce ont toujours un peu souffert pour leur image. D'une part de leur discrétion et d'une certaine méconnaissance, bien entendu, du grand public, et ceci en dépit d'une grande efficacité qui est reconnue dans le sauvetage des entreprises. Quid de la prévention ? Car bien évidemment, avant le sauvetage, il est encore mieux de prévoir des mesures qui permettent d'anticiper sur des situations qui pourraient devenir absolument irrécupérables. Quid de la conciliation, qui est un autre volet, je crois savoir que vous y êtes extrêmement attaché. Vous allez donc nous apporter des éléments de réponse sur ce plan. Alors, président, les tribunaux de commerce, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs fonctions ?
Eh bien, écoutez, d'abord, merci de cette présentation très, très complète et très sympathique. J'espère pouvoir répondre à vos différentes questions.
Je n'en doute pas.
S'agissant des tribunaux de commerce, de l'institution consulaire, il faut d'abord regarder un peu l'histoire, car l'histoire, comme vous le savez, commande le présent et le futur. Et l'histoire, elle remonte à 1563, c'est-à-dire à une ordonnance du chancelier Michel de l'Hôpital qui a créé les tribunaux de commerce. Et il a créé les tribunaux de commerce, au fond, pour répondre à un besoin. Ce besoin, c'était que les commerçants de l'époque avaient évidemment des litiges, rencontraient des difficultés, comme tous les commerçants. Et le chancelier a pensé qu'il était bon que les litiges entre commerçants soient tranchés par d'autres commerçants, par des pairs élus à cet effet.
Donc ça, c'est un point important. Vous insistez bien sur le point que ce sont non pas des magistrats professionnels, ce sont des magistrats élus.
Exactement. Ce sont des magistrats élus qui viennent de l'entreprise, qui sont bénévoles et qui, et c'est une force des tribunaux de commerce, ont des formations et des expériences professionnelles multiples. Et ça, je pense que c'est un point essentiel qu'il faut préserver, sachant que dans le même temps, le droit s'est considérablement complexifié et que par conséquent, il faut aussi être des professionnels du droit. Certains juges ont déjà une formation juridique, une expérience juridique, d'autres ne l'ont pas. Par conséquent, l'accent est mis sur la formation, qu'elle soit initiale ou continue, pour que ceux qui n'ont pas de formation juridique l'acquièrent, ou en tout cas acquièrent les rudiments indispensables, et que ceux qui l'ont
l'entretiennent.
L'entretiennent. Et autre chose importante à cet égard, c'est le travail qui se fait dans les chambres. Un tribunal, n'est-ce pas, est composé de chambres. Et ces chambres, qui comportent en général 6-7 juges, peuvent, dans leur composition, avoir des juges, juristes, qui vont apporter leur savoir, leur culture, leur connaissance à des collègues qui ont peut-être une culture moindre sur le plan juridique.
Donc c'est de la formation croisée, en quelque sorte.
C'est de la formation croisée.
Alors, un des risques, alors bien sûr, on voit très bien, et vous l'expliquez de façon parfaite, le pourquoi de ces traitements de difficultés, on va dire, entre pairs. Immédiatement, ce qui vient à l'idée, en tout cas pour le profane, c'est de se dire, oui, mais attention, c'est entre pairs, est-ce que cette mixité, est-ce que cette consanguinité ne peut pas dériver sur, on va dire, des pratiques qui pourraient être contestées par ailleurs, notamment en termes... Alors, je sais que vous êtes tout particulièrement attaché à la déontologie, peut-être pouvez-vous nous en dire un mot.
Je pense que c'est un point essentiel, que l'éthique et la déontologie sont des domaines qui doivent retenir toute l'attention des tribunaux, qu'il s'agisse des présidents de chambres, des présidents de tribunal, ou qu'il s'agisse des juges. Je crois qu'actuellement, nous faisons de très gros efforts pour être tout à fait irréprochables sur ce plan. Mais on le sait, rien n'est jamais acquis. Par conséquent, c'est une vigilance de chaque instant qui doit être présente pour que l'éthique et la déontologie soient parfaitement respectées. J'ajoute aussi un point qui n'est pas négligeable, bien sûr, c'est que nous sommes juridiction de première instance et que par conséquent, nos décisions sont contrôlées par la Cour d'appel.
Bien sûr.
C'est toujours un point qu'il ne faut pas oublier.
Nous sommes dans une société de droit en France. Heureusement, il y a des procédures d'appel. Cela étant, donc vous avez un code de déontologie en quelque sorte.
Nous avons un code de déontologie et la Conférence générale des juges consulaires de France, qui est une institution fêtière, traite justement de ces questions au nom et pour le compte de tous les tribunaux de France.
Et j'imagine que vous avez apporté votre pierre à l'édifice.
Absolument, et j'ai apporté ma contribution, notamment en réfléchissant sur le serment. Car nous sommes des juges, nous ne sommes pas des magistrats puisque nous ne relevons pas du Conseil supérieur de la magistrature, mais nous prêtons le même serment. Nous prêtons le même serment et ce serment, il est très court et au fond, à partir du serment, c'est tout un pan de notre activité qui se trouve concerné. Et justement, nous n'entrons pas dans les détails parce que le serment dispose d'une manière générale d'une éthique et d'un comportement qui doit être le nôtre.
D'accord.
Et il faut toujours faire un travail d'introspection quand on a prêté le serment pour se pénétrer de ce qu'il implique.
Très bien. Donc, je crois qu'effectivement, le bon fonctionnement est à ce prix. Le respect de la définition de règles très claires en matière de déontologie et bien entendu le contrôle de ces règles. Donc, comment se passe en quelques mots le traitement d'un dossier ? Vous êtes saisi à partir de quel moment ?
Écoutez, nous sommes saisis, s'agissant du contentieux, en général à partir d'une assignation.
C'est ça.
Une entreprise assigne une autre entreprise, un commerçant assigne un autre commerçant et l'affaire vient devant nous dans le cadre d'une procédure de mise en état, dans les détails desquels il n'y a pas lieu d'entrer aujourd'hui.
Enfin, on va à la phase principale.
Voilà. S'agissant des procédures collectives, bien, ce sont souvent des assignations en ouverture de procédures collectives, mais également... et probablement plus encore, des déclarations de cessation de paiement, qui sont une initiative de l'entreprise.
Qui sont de sa responsabilité. En
sous la responsabilité, et c'est une responsabilité d'ailleurs qui est sanctionnée si elle n'est pas respectée, l'entreprise qui va mal se déclare en cessation de paiement, et une ouverture de procédure collective interviendra en général rapidement après cette déclaration, en vue d'un redressement judiciaire ou en vue d'une liquidation. Mais... ça, je dirais, c'est l'aspect curatif.
Oui.
Ce qu'il faut surtout, c'est éviter d'en arriver là.
Alors, la prévention.
Alors voilà, voilà, le mot est lâché, la prévention. À cet égard, et on retrouve là une spécificité des tribunaux de commerce, depuis déjà bien longtemps, les tribunaux avaient mis en place une procédure de prévention. Et le tribunal de commerce de Paris, je crois, dès 1984, avait déjà, par une construction prétorienne, instauré le fameux mandat ad hoc. Mais depuis, le législateur est intervenu, il est intervenu avec bonheur. Et
D'un mot, le mandat ad hoc, vous pouvez dire à notre auditeur.
Alors, je peux vous dire, bien entendu, le mandat ad hoc, qu'est-ce que c'est ? C'est la désignation d'un professionnel compétent, connu, reconnu par les milieux d'affaires. Ce que j'appelle les milieux d'affaires, ce sont les créanciers institutionnels, ce sont les banques et les établissements bancaires, ce sont évidemment toutes les entreprises, tous les opérateurs économiques. Ce sont très généralement des administrateurs judiciaires qui ont cette compétence, cette connaissance et cette reconnaissance, et ils sont désignés par voie d'ordonnance par le tribunal au vu d'une requête présentée par l'entreprise sur la base d'un dossier très complet. Et lorsque ce mandataire est désigné par ordonnance, il aura une mission qui sera définie en fonction, je dirais, de chaque cas, mais qui, en général, consiste évidemment à assister le chef d'entreprise, parfois très démuni, surtout quand c'est une toute petite entreprise, l'assister dans ses négociations avec essentiellement les banques, oui, naturellement, mais avec les créanciers institutionnels pour reconsidérer la dette, pour la rééchelonner, pour obtenir une ouverture de crédit, etc. Enfin, pour sortir l'entreprise des difficultés où elle se trouve.
D'accord. Alors, question, déjà en termes de chiffres, mais alors tout très très brièvement, il y a combien d'entreprises à Nanterre, par exemple, qui passent en liquidation chaque année ? Enfin, les ordres d'idées, hein, simplement. Hein. Donc, les volumes, c'est de quel ordre ? C'est plutôt la centaine ou, parce que la première juridiction, vous êtes la deuxième. La première, c'est qui ?
C'est Paris.
C'est Paris, en tant que tel.
Oui, c'est Paris. Mais n'est-ce pas, c'est les liquidations, d'abord, les chiffres, bon, comme on sait...
Ça se superpose, effectivement.
Ben oui, parce qu'il y a des liquidations, par exemple, d'une petite entité qui n'a pas de personnel. Ouais. Et puis, vous allez avoir une liquidation d'une entreprise.
D'accord,
qui peut
donc
avoir,
effectivement, les chiffres bruts ne veulent pas dire grand-chose.
Voilà, mais j'aimerais revenir sur le thème de la prévention.
Tout à fait, non, mais on y reste. Hein,
puisque la prévention, nous en avons parlé à partir du mandat
ad hoc, mais il n'y a pas que ça.
Mais la loi de sauvegarde de 2005, qui vient d'être d'ailleurs amendée et complétée par l'ordonnance de décembre 2008, ce sont des textes qui ont un très grand mérite, c'est d'avoir inculqué la culture de l'anticipation. Jusqu'à maintenant, lorsqu'une entreprise allait mal, le réflexe du chef d'entreprise était de fuir le tribunal. Aujourd'hui, on lui explique que le bon réflexe, c'est d'aller au tribunal le plus rapidement possible, quand il est justement encore temps de prendre des mesures utiles, bénéfiques pour l'entreprise. C'est donc un changement culturel très profond. Et la loi de sauvegarde, c'est une loi qui a développé les procédures conventionnelles, qui a instauré aussi une autre procédure, qui est la procédure de sauvegarde proprement dite. Mais la procédure de sauvegarde, c'est tout de même une procédure judiciaire. Et par rapport aux procédures conventionnelles, elle est publique. Tandis que les procédures conventionnelles sont confidentielles. Et c'est toute la différence, mais elle est majeure. Dès que l'affaire en difficulté est sur la place publique,
il est trop tard.
Rien ne va plus.
Ouais. Et cette confidentialité, vous arrivez à la tenir quand même ?
Alors là,
c'est absolument.
Parce que ça, c'est d'abord...
C'est un critère numéro un.
C'est dans la loi. Cela doit être respecté par tous ceux qui ont à connaître de... la procédure de mandat donc, ou de conciliation, et c'est tout à fait respecté.
D'accord. Voilà pour ce qui concerne la sauvegarde. On a vu aussi que vous êtes très sensible aux problèmes de déontologie, et je crois savoir qu'il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, c'est celui de la conciliation.
Alors, c'est exact. Je crois que c'est un dossier très actuel qui doit révéler la modernité de la justice. La justice est très souvent mise en cause. Et je pense que la conciliation
Est-ce que ce n'est pas un retour aux sources, la conciliation ? Puisqu'en fait...
On pourrait dire ça. C'est peut-être un retour aux sources. Alors évidemment, dans un contexte qui est différent de celui de l'ordonnance de 1563, où les conflits se déroulaient surtout dans les foires. Alors aujourd'hui, c'est évidemment autre chose. Mais il y a une parenté. Il y a une parenté, et c'est qu'effectivement, dans le domaine des affaires, où le contrat est roi, on négocie tous les jours dans le domaine des affaires. Par conséquent, essayer de traiter un litige par la voie de la conciliation, c'est-à-dire par la voie du dialogue, de la prise en compte des intérêts bien compris, avec intelligence, en essayant de mettre de côté la passion, l'émotion qui perturbe tout, je crois que c'est une voie très moderne qui rendra à la justice sa crédibilité. En tout cas, c'est un élément qui contribuera à cette crédibilité. Et vous savez que la mission du juge, de par le code de procédure civile, elle est double. Le juge tranche les litiges, c'est l'article 12 du code de procédure civile qui lui donne cette mission, et le juge concilie les parties, c'est l'article 21. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Et là, vous retrouvez un texte très court, comme savaient les rédiger nos anciens, hein, c'est-à-dire un texte à partir duquel...
On dit l'essentiel.
On dit l'essentiel, à partir duquel peut se construire beaucoup de choses. Voir, par exemple, le droit de la responsabilité, qui repose sur l'article 1382 de quelques lignes, et tout notre droit de la responsabilité repose sur ces quelques lignes. On n'a pas besoin d'un empilement législatif comme on connaît à notre époque, qui brouille beaucoup de choses.
Et est-ce que votre code, vous avez un code du commerce, est-ce qu'il a été toiletté comme celui du travail ou pas ? Ça va nous permettre
non,
de...
Non, il est très épais.
C'est la question.
Bon, il est très épais. Évidemment, le droit du commerce n'est pas comparable au droit du travail pour beaucoup de raisons qu'il est inutile de développer. Mais l'empilement des lois est là. Donc c'est aussi aux juristes, pas seulement aux juges, mais aux juristes, d'en faire le meilleur usage et de sortir de sa gangue ce qui est essentiel et de ne pas se perdre dans la réglementation tatillonne. Oui.
Alors, c'est un petit peu ce qu'on entend du côté des politiques. Notamment, j'ai entendu notre ami René Ricol dire qu'en définitive, le soutien abusif pour les banques, c'était une vaste rigolade. À peu près, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se protéger derrière cet argument pour ne pas intervenir en temps utile dans le redressement des entreprises en difficulté. Alors, vu du côté des banquiers, je peux vous assurer, pour en avoir été un, que ce soutien abusif, c'était quelque chose qui, effectivement, faisait très peur, puisque on était, non seulement il y avait des risques de pertes fortes liés à l'intervention dans ce cas-là, mais aussi les dirigeants bancaires, à titre personnel, pouvaient avoir de sérieux ennuis. Alors, quelle est votre position sur ce sujet ?
Ma position, je pense, j'espère... qu'elle est très, très équilibrée, puisque vous parlez des banquiers, souvent on leur a fait un mauvais procès.
Oui, souvent un mauvais sort aussi.
Aussi, puisqu'on les a accusés de deux mots contradictoires.
Absolument. À la fois de rompre trop vite...
Et ne pas vouloir...
Soutenir.
Soutenir, hein, ouais, voilà. Bon, donc il faut écarter cela, il faut sortir des idées reçues, et il faut, dans ce domaine, comme dans tous les domaines juridiques que nous abordons, dégager l'esprit, la finalité de la loi. Ce que l'on dit en mots savants, c'est l'interprétation téléologique. Qu'est-ce que le législateur a voulu ? Je pense qu'en l'occurrence, le législateur, il a voulu faciliter le travail des banques. Et donc, il n'a pas voulu qu'à tout moment, on puisse mettre en cause leurs responsabilités parce que précisément, elles ont apporté un soutien aux entreprises. Alors, il y a toujours place, naturellement, pour des exceptions, mais je vous rappelle que dans la loi de sauvegarde, les conditions pour que la responsabilité du banquier soit mise en cause sont précisément définies.
Oui, mais elles ne l'ont pas toujours été. Hein, donc,
oui, mais enfin, maintenant...
Il reste, si vous voulez, une sorte de traumatisme hanté qui fait que, effectivement...
C'est vrai, mais pas d'émission.
C'est ça.
Pas de prise de garantie anormale. Bon,
Mais je suis convaincu que ce que vous dites sera entendu d'une façon très très attentive par les banquiers, parce que effectivement ils avaient besoin d'être rassurés, a fortiori dans la période que nous vivons. Alors justement, dans la période que nous vivons, est-ce que vous voyez, alors vous, il y a ce que fait le médiateur national du crédit qui je voyais récemment, a permis, selon ses déclarations, de sauvegarder 100 000 emplois. Est-ce que vous, vous voyez une dégradation maintenant très forte du tissu économique, ou est-ce que pour l'instant les choses sont restées à peu près supportables? Vous voyez une accélération?
Alors, premièrement,
dans votre territoire, bien entendu. Hein.
Bien entendu. Bon, premièrement, comme je le disais à l'audience solennelle de rentrée, nous n'avons jamais mêlé notre voix et nous ne la mêlerons jamais aux promoteurs du catastrophisme. Premièrement.
Très important.
Bien sûr que les turbulences que nous vivons sont très fortes. Personne ne peut dire le contraire. Je pense aussi que beaucoup de mesures ont été prises, qui nécessairement demandent un certain temps pour produire pleinement leur effet. Et maintenant, si je reviens au domaine qui est le mien, celui des Hauts-de-Seine, qu'est-ce que je constate? Je constate que sous la présidence du préfet, nous avons chaque mois une réunion avec tous les décideurs économiques du département. C'est l'occasion d'échanger des informations, c'est l'occasion de se connaître et c'est l'occasion de pouvoir faire appel au trésorier payeur général, au directeur de la Banque de France.
C'est l'occasion d'avoir une meilleure synergie.
C'est extrêmement utile et positif. Pour l'instant, nous n'enregistrons pas d'augmentation d'ouverture de procédures collectives. Et je pense que ça tient au fait que les assignations, et notamment les assignations en provenance de l'URSSAF, sont
réglementées, on va dire.
Elles sont réglementées, mais aussi les entreprises savent aujourd'hui, dans les Hauts-de-Seine en tout cas, que si elles vont demander un délai à l'URSSAF, elles seront accueillies favorablement. Et par conséquent,
elles y vont.
Et voilà. Et donc, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire une déclaration de cessation de paiement où il n'y a plus d'assignation à redouter.
Tout à fait.
Voilà. Donc, au total, assignation et DCP, nous sommes
à peu près tal. Donc, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Alors, une question d'actualité, si je puis dire. C'est la réforme de la justice qui est un grand dossier. Alors, je ne veux pas vous placer sur le terrain politique, bien entendu, mais simplement, ça a touché, bien sûr, cette réforme, et ça va toucher, enfin, en tout cas, moi qui connais la région du centre, je sais que c'est un certain nombre de tribunaux de commerce ont été touchés. En réalité, il s'agit de quoi? Ça a été une concentration forte ou...
Il s'agit certainement d'abord d'une réforme qui était nécessaire.
Oui, pour le premier point.
Alors, je parle des tribunaux de commerce, pourrait peut-être étendre le sujet.
Ouais.
S'agissant des tribunaux de commerce, nous avons réformé la carte judiciaire nous-mêmes.
D'accord. Donc,
ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas eu de cris, de pleurs, voire de hurlements, mais nous l'avons fait entre nous. Et nous avons présenté à la chancellerie un projet. De 185 tribunaux, nous sommes 135. Voilà. Alors, ce travail a été fait entre nous, il a été accepté par la chancellerie et la carte judiciaire s'est mise en place depuis le 1er janvier.
D'accord.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres mouvements, etc.
Parce qu'il y a encore certains départements où il y a plusieurs tribunaux de commerce.
Il y a encore, dans certains départements.
Et parfois dans des petits départements, mais qui ont trois têtes de etc. Je pense à un département en particulier sur lequel je ne fais pas de commentaires. Donc finalement, là encore, toujours en fonction de la règle que vous soulignez, vous avez anticipé. Donc il vaut mieux présenter avant de ses propres propositions avant de recevoir un coup de bâton pour les proposer.
Voilà, je crois que c'est une règle. Hein, souvent dans la vie, si on ne propose pas, on se fait arracher.
Absolument. Bien, alors ça c'est le premier point. Et donc, sur le deuxième point, puisqu'on a déjà passablement avancé dans notre dans notre entretien. Maintenant, on va dire perspective d'avenir, autrement dit, et peut-être aussi cadre européen, hein, avant de parler de perspective d'avenir. Est-ce que, donc, en Europe, dans le, on va dire, le territoire européen, existent des juridictions à peu près comparables ? Avez-vous des liens avec elles ou est-ce une spécificité plutôt nationale que de traiter les choses de cette manière ? Enfin, dans les grandes lignes, bien entendu.
Oui, bien sûr. Bon, les perspectives, je crois que c'est le cas d'ailleurs pour notre tribunal, nous sommes très ouverts sur l'extérieur. Et notamment, nous nous intéressons beaucoup au domaine communautaire et international pour rencontrer des juges étrangers, pour connaître les législations étrangères. Nous avons été à Luxembourg, j'espère cette année aller à Bruxelles. Tout ça est très important pour développer notre culture générale en ce domaine. Alors, dans les autres pays, il n'y a pas l'équivalent de nos tribunaux. Ou plus précisément, il y a bien sûr des tribunaux de commerce qui s'occupent du droit des affaires, mais qui ne sont pas, ou peut-être à quelques exceptions près, qui globalement ne sont pas composés de juges élus, bénévoles, venant du monde des affaires. Il faudrait faire un état exhaustif. Alors, on trouve parfois à côté de juges professionnels, des juges qui viennent des affaires. Mais la spécificité française demeure.
D'accord. Et alors, les juges français, est-ce qu'ils sont à parité ? La parité, c'est beaucoup à la mode ces temps-ci. Est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ou c'est plutôt masculin ? Je crains que ça soit un peu masculin.
Je crois que vous ne vous trompez pas. nous avons des femmes dans nos tribunaux, mais
une juridiction un petit peu masculine.
Un 10% peut-être.
C'est ça, d'accord. Bon, ben, donc on a tous des efforts à faire en matière de parité. Voilà. D'accord. Alors si on n'est pas encore à un moment de Noël, mais si le Père Noël devait passer et qu'il dise au président du tribunal de commerce de Nanterre qu'est-ce que vous voulez comme cadeau ? Vous répondriez quoi ? Vous auriez besoin de quoi pour que ça soit encore mieux et dans le meilleur des mondes ? Les rapports avec le ministère public sont bons.
Les rapports avec notre chef de juridiction, le tribunal de grande instance, avec le parquet, avec les mandataires, nous avons de très bonnes relations. Donc ce que je souhaite, c'est qu'elles demeurent. Elles sont empreintes de part et d'autre de confiance, qui est le maître mot dans toutes les activités humaines. Donc sur ce plan, continuons. Continuons. Je crois que pour l'instant, nous avons une façon d'être, une façon de communiquer, de travailler ensemble qui est très bonne.
Justement, peut-être que l'effort à conduire maintenant, c'est peut-être pour les tribunaux de commerce aussi d'avoir une communication qui précise un peu plus leur image auprès du grand public. Mais c'est peut-être d'ailleurs une mission qui est plus collective qu'individuelle en ce qui concerne les tribunaux
de commerce. Oui, et puis dans ce domaine, vous savez, je crois personnellement beaucoup à l'exemplarité. Nous avons évoqué le problème de la prévention. Nous nous efforçons dans beaucoup de tribunaux, mais à Nanterre, d'accueillir le chef d'entreprise avec tout ce que ce mot comporte. En termes de rapidité de rendez-vous, de disponibilité, un rendez-vous est demandé le lundi matin, le chef d'entreprise est reçu le mardi matin. On n'attend pas. Et il est accueilli, c'est-à-dire qu'il est accueilli avec une certaine sollicitude. On comprend les problèmes qu'il a et nous avons la volonté de lui apporter une aide, une réponse et de suivre ensuite le dossier. Alors ça, je pense que pour la promotion des tribunaux, c'est sans prix. Un chef d'entreprise bien reçu parle et un chef d'entreprise mal reçu parle aussi. Alors il faut choisir. Voilà.
Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, c'était un entretien avec le président Jean-Bertrand Drumen. Président, je vous remercie d'avoir pris sur votre temps pour cet entretien à Canal Académie. Vous êtes très attaché à des valeurs très fortes, la confiance, l'exemplarité et la déontologie que vous suivez de très près, à tel point d'ailleurs que vous venez d'entrer dans le collège d'honneur du code, c'est-à-dire du conseil ordinal de la déontologie des dirigeants salariés, ce qui est à nouveau la démonstration des références et des valeurs fortes que vous portez. Président, une nouvelle fois, merci, à très bientôt sur cette antenne. Au revoir.
Merci beaucoup. Thank you.